RCF.
La rentrée effectivement à 18h10 sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardenne, RCF Champagne-Ardenne avec le DAB+, on n'oublie personne, Jean-Pierre Benoît, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Vous m'avez l'air bien bronzé, vous avez profité des vacances.
Eh bien oui, vous savez que ma terre de prédilection c'est les Ardennes et vous savez que
le soleil,
les Ardennes, le soleil est permanent.
Avec nous Claude Ruiz également, bonjour Claude.
Bonjour.
On voit un sourire taquin, presque moqueur, ça ne nous plaît pas trop à nous les Ardennais.
Oui, oui, on voit bien que c'est le sourire du sud-ouest.
Oui, c'est du sud et du sud-ouest en réalité, c'est pour ça que le premier sujet va nous attirer vers le sud et le sud-ouest.
On continue de regarder sur le monde avec vous cette saison le lundi, Claude Ruiz, et puis en alternance avec Jean-François Boulanger, évidemment qu'on le retrouvera également dans Mémoire chrétienne le mardi. Jean-François Boulanger, quel sera le thème... Claude Ruiz, pardon, du coup aujourd'hui, quel sera le thème du jour aujourd'hui avec vous?
Le thème du jour, ça sera le rugby, la Coupe du Monde de rugby. Comme les gens vont l'entendre parler pendant un mois et demi, je vais essayer de donner quelques pistes de pourquoi le rugby.
On vous retrouve dans quelques secondes pour en parler. Jean-Pierre Benoît, on parle de la rentrée. Évidemment, la rentrée scolaire, la rentrée politique, on en parlera à l'intérieur de cette édition, à la fois dans le journal régional de 18h30, mais aussi avec la chronique, puisque vous le savez, Bruno Le Maire était sur la 77e foire de Chalon aujourd'hui. Nos amis de RCF Cœur de Champagne l'ont rencontré. Mais la rentrée, nos auditeurs ne la manquent pas, c'est aussi la rentrée de la radio. Ce sera l'occasion de parler des nouveautés sur RCF France Ardennes, Jean-Pierre.
Absolument, Alexis. Quelques nouveautés, on en parlera, je crois, tout à l'heure. Et puis, des émissions qui restent. Parce que de toute façon, il y a des émissions de qualité qui existent depuis plusieurs années. Et puis, il y a aussi des auditeurs qui tiennent à retrouver de façon, j'allais dire, chaque année, de façon rituelle presque, des programmes sur lesquels ils ont l'habitude de se reconnaître.
On vous retrouvera en deuxième partie d'émission pour en parler. Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne, évoquera aussi ces nouveautés et ces choses qui restent stables dans la grille 2023-2024 de RCF Cœur de Champagne en deuxième partie d'émission. 18h12, passé de 33 secondes, on est toujours aussi précis. Ici sur les ondes de RCF, on regarde sur le monde avec Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Le rugby n'est pas un long fleuve tranquille, Claude Ruiz, c'est un regard sur le monde orienté vers le sport pour une rentrée dynamique avec la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France. Le coup d'envoi c'est ce vendredi, le 8 septembre, ça sera jusqu'au samedi 28 octobre. Parenthèse sportive, on espère que les Bleus seront en finale évidemment, il y a de bonnes chances, on l'espère. Nous allons introduire cette longue séquence en abordant quelques étapes de l'installation du rugby, installation qui ne fut pas un long fleuve tranquille comme vous l'évoquez dans le titre de cette chronique, Claude Ruiz.
Oui, en effet, au-delà des informations un petit peu sur les matchs que nous allons avoir, une Coupe du Monde, vous l'avez dit, très longue en réalité, hein, donc faut pas trop saturer quand même le public, parce que là, c'est quand même quelque chose qui va durer un mois et demi. Cette Coupe du Monde qu'on appelle la Coupe William Webb Ellis, du nom de celui qui est considéré comme à l'origine du rugby, c'est-à-dire le fait de se passer la balle à la main. Et on va inscrire ce sport en France. C'est un sport qui s'est développé essentiellement dans la partie sud-ouest. Hein, donc on va dire dans le monde de l'Occitanie, si on veut avoir des références régionales. Je voudrais pas faire un affront ici aux Ardennes, donc que je connais très très bien depuis mon oc natal.
Mais le rugby se développe aussi dans la région, Claude Ruiz, on pense notamment au club d'Épernay, au stade de Reims Rugby, dont le président sera notre invité vendredi soir.
Oui, vous avez raison, Épernay est un vieux club de rugby français en réalité, quand on regarde bien les... Alors ce sport a connu plusieurs étapes.
Alors en effet, Claude Ruiz, vous le dites, plusieurs étapes. Comment le rugby s'est-il développé dans l'espace français, alors que ce fut finalement, comme de nombreux sports, une invention britannique au XIXe siècle?
Oui, une invention britannique. Alors je rentre pas dans l'histoire, hein, c'est-à-dire dans l'histoire médiévale où on fait référence à la soule, etc. Donc à des sports qui ressemblent un petit peu au rugby. Mais la codification a été essentiellement liée au Royaume-Uni. Et là... C'est un fait de société, on va dire. C'est des pratiques sportives au cœur de l'éducation des élites. C'est donc ce sport que l'on a pris, parmi d'autres, pour éduquer les élites. D'où la mise en place très tôt de structures du rugby. Les Home Unions, on les retrouve en Angleterre, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, avec leurs spécificités, plus dans les colonies, les Dominions, en Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Mais vous le savez, très tôt, justement, ce sport un petit peu qui se veut pour les élites, ou du moins à proposer aux élites, il est en tension avec le football qui, lui, a la particularité d'être plus près des ouvriers, mais d'être un sport professionnel.
Mais alors, pour un petit peu mieux comprendre, Claude Ruiz, comment le rugby s'est-il développé et comment se fait-il accepter aussi sur le territoire, quelque part?
Alors, la diffusion, comme de nombreux sports anglais, vous le savez, en France, ça commence d'abord par la capitale, souvent. Hein. Bon, il peut y avoir une entrée portuaire, on va dire. Hein, le Havre, par exemple, hein, des plus vieux clubs français en termes de rugby. Mais ensuite,
pourtant, aujourd'hui, le Havre au rugby, je ne le mets pas sur la carte du rugby français.
Il peut y avoir des évaporations. Hein,
effectivement,
aussi.
Il peut.
Ça existe.
Mais c'est bien de le savoir
social.
Pour l'histoire, Claude Ruiz.
Voilà. Mais c'est géographique. Je ne vais pas vous faire un cours de géographie. C'est géographique au départ, l'entrée par le Havre. Mais c'est bien entendu les vieux clubs, c'est le Racing et le Stade français. Donc on voit l'élément parisien. C'est lié aux échanges. Puis le Sud-Ouest. Pourquoi le Sud-Ouest ? Vraisemblablement, la plupart des analystes mettent en avant l'anglophilie ou alors les représentations qu'ils ont de l'époque où l'Angleterre s'est même battue hein, pour essayer de conserver ce territoire. Et donc là, c'est un pays aussi où les migrants récents, à l'époque, à la fin du 19e siècle, les Italiens, les Espagnols, sont intégrés par l'intermédiaire de ce rugby. Pas forcément le foot est déjà très inséré et l'Église va jouer un grand rôle, même dans le Sud, pour le développement, comme sur le plan éducatif, du football. Le rugby, c'est plus intégrateur et la diffusion sera très rapide, tellement rapide et les Français jouent assez bien, en fin de compte, au rugby, l'adoptent très vite. La France obtient le privilège de jouer contre les nations britanniques, petit à petit, les unes après les autres. En 1906 même, contre la Nouvelle-Zélande, donc vous le voyez.
Ça sera d'ailleurs le match d'ouverture cette année, en 2023, de la Coupe
exactement,
du Monde.
Exactement, on est dans une étape et on peut se souvenir. Ça montre un petit peu l'élément un petit peu club. Et ça stimule un championnat de France donc lié aux villes qui va se développer, le fameux bouclier de Brennus. Mais les Français ont mauvaise presse quand même, parce que c'est pas des élites qui jouent, c'est des gens du peuple la plupart du temps, et les Français sont un peu débridés, et ça restera souvent dans la mémoire des arbitres britanniques pendant plusieurs décennies. Ce qui va effacer les tensions, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale, hein. Mais après la Première Guerre mondiale, c'est le professionnalisme. D'un côté, vous avez un professionnalisme qui va se développer dans certains clubs français et les Anglais qui détestent en fin de compte cette optique-là, qui veulent garder l'élément un petit peu culturel des élites. Bien entendu, par rapport à cette situation, 1931 peut être considéré comme une étape repère, puisque là, il y a une sanction. Le président, en fin de compte, du Rugby Union dit la France ne peut plus jouer avec les Anglais. Donc, c'est quelque chose d'important. Et la France sera isolée, puisque de 1931 à 1947, elle ne pourra pas jouer contre les nations britanniques. Pas de tournoi des cinq nations.
Force est de constater aujourd'hui, Claude Ruiz, que l'équipe de France joue contre ces nations britanniques. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui va sauver le rugby à 15 en France ?
Ben, le rugby à 15 en France, j'allais dire, c'est encore la guerre. Vous voyez, la guerre, parce qu'on remet tout à plat. Et particularité, la guerre, pourquoi ? Parce que d'un côté, le gouvernement de Vichy va être très opposé au sport professionnel. D'accord ? Et il va trouver à l'intérieur même de ce gouvernement des ministres, comme des ministres basques, la famille Borotra, quinziste, hein, affirmé, et puis le colonel Pascot, qui est un demi d'ouverture de Perpignan, qui sera aussi au gouvernement et qui, lui, va faciliter le développement du 15. Mais aussi, à la fin de la guerre, quel est en réalité le représentant du rugby, c'est Jacques Chaban-Delmas.
Hein. Qui a donné son nom à un stade de foot à Bordeaux et qui est maintenant le stade de rugby.
Voilà, champion de France, qui a été un des plus jeunes champions de France, donc, et qui permet, en fin de compte, cette osmose, si vous voulez. Donc, on peut dire que le gaullisme 1958, la Ve République, bien entendu, il y a le foot d'un côté. Hein, il y a le foot d'un côté avec Copa en 1958 qui brille la Coupe du Monde en Suède. Mais le rugby, bien entendu, je vous rappelle que c'est en 1958 que la France va en Afrique du Sud. La meilleure équipe au monde à l'époque. Et match nul 3-3, puis victoire 9-5.
Les scores, ça ne fait pas rêver, Claude Ruiz, si vous me permettez.
Ça ne fait pas rêver, mais ça veut dire que la France est officieusement championne du monde. Le championnat du monde n'existe pas. On bat les meilleurs du monde, on est champion du monde. Vous voyez, parce que les journalistes vont chercher à savoir pourquoi on n'est pas encore champion du monde. Eh bien, on l'a été en réalité, et vous le savez, la télévision va jouer un rôle avec des journalistes comme Roger Couder pour développer tout ceci. Je crois que là, le rugby est bien lancé. Donc 1958 est aussi une étape.
J'ai encore une question pour vous, mais je vois à mes côtés Jean-Pierre Benoît qui ne tient plus, qui trépigne. Il y a une question.
Il y a une question, mais il y a surtout le temps qui passe très vite.
Vous inquiétez
c'est
pas, Jean-Pierre. On est dans les. Vous
inquiétez pas. 4, puisque vous parliez de 58, le 4 septembre 58, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un anniversaire très important. Hein. C'est le lancement du débat sur la Constitution, le référendum sur la Constitution. Mais j'ai pris encore quelques secondes et Alexis s'impatiente à juste titre.
Le rugby. Le rugby, juste d'un mot, Claude Ruiz, fort de ses traditions, a évolué vers le professionnalisme.
Oui, c'est ça. Et en fin de compte, la Coupe du Monde qu'on va voir maintenant, donc parce qu'on va vous rabattre les oreilles avec cette Coupe du Monde, bah en réalité, la France l'organise déjà en 2007 hein, et elle a failli l'avoir en 2011. Elle a perdu de quelques points seulement. Donc, bon match et on espère qu'ils iront au bout. Mais pas forcément, mais... Bon.
2023 sera la bonne. France-Nouvelle-Zélande, c'est vendredi 8 septembre. C'est ce vendredi à 21h15. France-Uruguay, France-Namibie, France-Italie. Voilà pour le groupe des tricolores. Claude Ruiz, vous avez une carrière de rugbyman et vous avez même des rugbyman dans votre famille.
Oui, ça, plusieurs. J'ai trois internationaux.
Vous avez plutôt le format de Jean Gachassin.
Oui, exactement.
Tous ceux qui étaient, j'allais dire, des ailiers et qui arrivaient... Par leur vivacité, à être le roi de Wembley par moment.
Peter Pan.
18h22 sur RCF, le magazine régional continue.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Jean-Pierre Benoît, vous êtes un petit peu notre Antoine Dupont sur RCF, le capitaine, celui qui mène l'équipe de France de rugby, vous menez l'équipe de RCF. Nouveauté du magazine régional, plus proche de vous, des auditeurs. Tous les jours, on va à la rencontre d'un maire, d'une commune, près de chez vous. Quand on peut, ça sera en lien avec l'actualité diocésaine et les équipes missionnaires qui seront sur le terrain. Pour cette première, ce lundi, Jean-Pierre, on prend la direction des Ardennes et de Poitéron avec Jean-Marie Houdard qui est à votre micro.
Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est l'occasion de connaître votre commune. La commune de Poitéron, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, la situer, nous présenter votre commune?
Très rapidement, c'est un bourg rural, donc dans les Ardennes, au cœur des Ardennes. Il y a 900 habitants, un peu plus de 900 aujourd'hui, c'est à 18 km de Charleville-Mézières, donc au sein d'une communauté de communes qui s'appelle les Crêtes Préardennaises, donc territoire rural. Et je suis maire depuis 2014 de cette commune.
Alors, on reverra votre commune, mais vous êtes maire et quelles ont été vos motivations pour être maire? Est-ce qu'on peut dire que c'était dans votre ADN?
Absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis plutôt de culture associative. Hein. J'ai beaucoup milité dans des associations au niveau du territoire des Crêtes Préardennaises, justement. Moi, je voyais l'engagement comme élu, et pas forcément maire au départ, d'ailleurs, pour avoir un peu une action aussi intercommunale. Puisque l'intercom paraissait une échelle assez intéressante pour dépasser la simple gestion communale et avoir une vraie dynamique de projet. Donc quand on m'a proposé de faire partie de l'équipe municipale, évidemment j'ai dit oui, et une condition c'est de pouvoir travailler à l'échelle de l'interco, c'est-à-dire d'avoir une place d'adjoint pour siéger à l'interco. Ben, les choses ont fait que quelques temps avant les élections en 2014, le maire du mandat d'avant qui conduisait l'équipe est venu me voir en me disant ben, finalement je ne me représente pas pour de multiples raisons et je n'en vois qu'un qui est capable de prendre la place. Et c'est comme ça que je suis arrivé maire, sans avoir été conseiller municipal auparavant d'ailleurs.
Alors revenons un peu sur votre commune, Jean-Marie Houdard. Comment peut-on dire la caractériser, ses activités, ses habitants? Des agriculteurs, des gens qui travaillent à Charleville, des gens qui sont sur place, des retraités?
Alors, des gens qui travaillent un peu partout, sur Charleville, mais aussi sur Reims ou Rethel. Alors c'est une commune bourg-centre, ça veut dire qu'on y retrouve l'ensemble des commerces et des services qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Hein. Il y a bon, boulangerie, boucherie, épicerie, il y a la poste, il y a les services médicaux, dentistes, médecins, infirmières, etc., etc. En matière d'enseignement, on a le regroupement scolaire de primaire qui a ses bâtiments sur la commune et on a le CFA, le bâtiment travaux publics, qui est implanté aussi sur la commune. En matière de mobilité, il y a une halte ferroviaire, donc avec des trains très très réguliers. Il y en a tout confondu, 35 par jour, et un échangeur autoroutier, donc le village est complètement accessible et ouvert vers l'extérieur. On est engagé dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité, donc on a pas mal de labels et d'engagements autour des villages fleuris, communes nature, trame verte et bleue, enfin j'en oublie, mais il y a plein de choses, et des plans climat communaux.
Alors, c'est vrai qu'on a entendu, et ça c'est en quelques secondes, hein, monsieur le maire, Jean-Marie Houdard, qu'il y a des maires qui ne voulaient pas y retourner dans les élections, parce qu'ils s'interrogeaient face aux responsabilités qui sont les leurs.
Oui, alors, bon, c'est vrai que nos compatriotes, ils s'imaginent un peu le maire avec un pouvoir quasi divin, je vais dire, et donc responsable de tout ce qui peut arriver. En fait, il faut essayer de faire comprendre, et on y arrive, que, bon, bien sûr, on a une autorité qui est donnée par la loi, une légitimité par les urnes, mais ce n'est pas nous des êtres exceptionnels. Donc, on est
Je me permets de vous interrompre. Vous pouvez être gêné, dérangé. On peut venir vous solliciter. Oui. Voyez, vous êtes quand même sur la brèche, comme on dit. Hein, et j'en profite pour vous demander, est-ce que vous êtes encore le patron chez vous quand on est maire? Parce qu'il y a la communauté de communes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes favorable aux communautés de communes?
Alors, complètement, et donc du coup, ma réponse, elle est un peu biaisée, hein, du fait que je suis à la communauté de communes. Alors, on a la chance, je vais parler pour notre communauté de communes, d'être sur une communauté de communes rurale où il n'y a pas de ville, donc plutôt un réseau de villages et de bourgs-centres, donc ça évite un peu la ville qui semble capter tous les dispositifs. Ceci dit, même chez nous, il y a ce débat sur l'équité de traitement entre les bourgs-centres et les petites communes, parce que les équipements un peu structurants, je sais pas, on va parler de salles des fêtes, de gymnase, de choses comme ça, de maisons médicales, sont forcément implantés dans les bourgs-centres où il y a déjà d'autres services. Donc c'est des fois mal ressorti par les petites communes. Et moi, la question, c'est de savoir comment, au travers des outils comme le plan local d'urbanisme ou le travail sur les mobilités, on puisse assurer un développement vraiment équilibré du territoire.
Alors, qu'est-ce que vous demandent vos administrés, les demandes les plus nombreuses, les requêtes, les questions?
Alors, pour commencer, je vous dis, on a un secrétariat permanent, ce qui permet déjà d'aborder beaucoup de réponses rapides la plupart du temps au travers du secrétaire. Et ça permet aussi d'atténuer les réactions des fois un peu épidermiques. Dès qu'il y a une ou deux journées qui sont passées, c'est plus apaisé. Alors les demandes les plus nombreuses, c'est plutôt des renseignements administratifs et des questions sur l'avancement des projets en cours et des opérations. Il y a aussi des remontées d'informations sur l'état des équipements communaux, par exemple, ou sur l'état des routes. Et puis, faut pas les oublier, il y a aussi les perpétuels mécontents, mais finalement, ils sont pas si nombreux, hein, et le plus souvent, ils sont porteurs de leur intérêt individuel plutôt que l'intérêt général.
Alors, justement, les projets en cours, ça c'est important, parce qu'il nous reste 3 minutes, Jean-Marie Houdard, quels sont ces projets à plus long terme ou à court terme avec votre conseil municipal?
Alors, on a aussi, pour introduire le truc, les projets ne sont pas tombés de rien. On a lancé 2 grands moments de démocratie participative quand je suis arrivé. Une approche environnementale de l'urbanisme, une démarche village durable. Et il y a 4 pistes d'amélioration qui sont ressorties à faire pour le village. Je vais les citer quand même. Mieux concerner les habitants et l'économie locale. Donc, on a fait un marché, par exemple, très difficile à fonctionner, mais qui existe. Renforcer l'implication citoyenne. Donc, on a fait une assoce d'animation. C'est fait, c'est encore en cours et ça fonctionne bien. Développer des espaces récréatifs. Donc, c'est en cours aussi avec un projet de tiers-lieu. Et proposer un habitat adapté au vieillissement de la population. On a fait un béguinage avec la communauté de communes, qui aujourd'hui est complet avec des files d'attente.
Et d'ailleurs, je vous interromps, Jean-Marie Houdard, tout ne sera pas dit, mais justement, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver un jour, prochainement. C'est que, à la fin du mois de septembre, vous avez déjà un grand rendez-vous à nous annoncer.
Oui, alors à la fin du mois de septembre, on organise la journée des possibles et du développement durable, c'est les 22 et 23 septembre. Alors le vendredi 22 septembre à 19h, à la médiathèque, on a une conférence débat qui est intitulée « Faune sauvage versus A34, ça passe ou ça casse ?» par une doctorante de l'Université de Reims et du CERF qui fait des recherches là-dessus. Et le samedi 23, toute la journée, avec des stands et des animations autour de la nature, de l'énergie et de la mobilité. Et on a une opération qu'on reconduit tous les ans déjà depuis que je suis là, c'est l'opération Adopte une poule, où pour une poule achetée, on en offre une qui permet de réduire les déchets dans les ménages.
Mais ça, c'est formidable, ça. Il y a peut-être des auditeurs qui vont acheter des poules, hein, chez vous, là.
Pas de problème. Ils sont attendus le 23.
Alors, Jean-Marie Houdard, ça va très vite. Il nous reste très peu de temps. Vous êtes un maire heureux. Vous arrivez à concilier tout ça? Il nous reste 30 secondes.
Eh ben, en 30 secondes, oui, je dirais plutôt heureux, dans la mesure où je suis au service d'un projet, que les échanges, tout ça, ça me plaît bien. La richesse de la participation, c'est quand même intéressant. Et puis le fait d'être dans une dynamique, d'être sur une commune un peu dynamique aussi, c'est très porteur en fait.
Merci Jean-Marie Houdard. Et vous voyez que cette émission, Votre Maire nous parle, rend la parole aux auditeurs. Vous pouvez éventuellement poser des questions à Jean-Marie Houdard. Son numéro de portable, 06 85 08 26 59. Je répète, 06 85 08 26 59. Au revoir Jean-Marie Houdard.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci Jean-Marie Houdard, merci Jean-Pierre Benoît. Nous, on prend déjà des mauvaises habitudes dès ce lundi de rentrée. On est légèrement en retard pour le journal régional de 18h30 puisqu'il est passé de 1 minute 22. Avec les titres de ce lundi 4 septembre, un peu plus de 222 000 élèves ont fait leur rentrée scolaire ce lundi dans l'Académie de Reims. Nouvel établissement, nouvelles matières, nouveaux copains, certains d'entre eux nous ont fait part de leur joie, mais aussi de leur crainte face à ces changements. L'Académie de Reims est prête pour cette rentrée scolaire 2023-2024, malgré plusieurs changements importants, à commencer par l'arrivée d'un nouveau recteur nommé mercredi dernier en Conseil des ministres. Il nous détaille les axes de travail sur lesquels il compte avancer.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudrette.
La rentrée en région, c'est depuis vendredi la foire de Châlons-en-Champagne qui est ouverte. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, a participé à l'ouverture aux côtés du commissaire général Bruno Forget et des élus du département et de la région. Événement incontournable de la rentrée, la deuxième foire agricole de France se poursuit jusqu'à lundi prochain. Elle est l'occasion pour un certain nombre de politiques de faire leur rentrée. Aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique qui était sur place. Christopher Fausten l'a rencontré, vous l'entendrez juste après ce journal. Vos radios RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes aussi participent à l'événement avec des directs depuis la foire. Ce magazine régional sera présenté par exemple en direct du stand de l'église catholique mercredi de 18h10 à 19h avec Mgr François Touvet, évêque de Châlons, Serge Barcelini, président du Souvenir National Français, et samedi prochain à partir de 11h, plateau spécial depuis le stand du département de la Marne. Toutes les informations sur les réseaux sociaux de vos radios préférées. 222 139 écoliers, collégiens et lycéens de l'Académie de Reims ont fait leur rentrée ce lundi. Parmi eux, les nouveaux élèves de 6e du collège Jean Moulin de Saint-Mémy, près de Châlons-en-Champagne.
Préparée mais stressée, Anaïs est arrivée sereine.
Faut tout préparer, c'est un peu stressant, on a un peu peur. Tu découvres toujours de nouvelles choses, tu découvres de nouvelles salles. Après, tu t'y habitues.
Un changement de lieu qui convient plutôt bien à Tom.
Ça change de l'école parce qu'il y a beaucoup plus de monde. J'aime bien. Je connais beaucoup l'établissement parce que j'ai une grande sœur qui est là depuis très longtemps.
Petit stress également pour Sarah avec ce changement de lieu, mais aussi de fonctionnement.
Ça fait un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Et puis aussi, c'est pas le même établissement, il est beaucoup plus grand et on change de salle aussi, ça. C'est bizarre de changer de prof toutes les heures. On a tout préparé hier. Après aussi, on a eu la liste l'année dernière, en fin d'année. Donc on a pu tout préparer pendant les vacances. J'ai tout ce qu'il faut, on a tout acheté.
Malgré ce nouveau lieu et fonctionnement, Thiago est prêche.
Ça change de l'école, c'est beaucoup plus grand, il va y avoir plus de profs, tout ça. Il y a tout qui est prêt.
Une première pour les 6e du collège Jean Moulin de Saint-Mémy, mais aussi pour la proviseure de cet établissement, Isabelle Bourin.
Déjà, dans un premier temps, juste dire que c'était mon premier vœu d'être ici, puisque j'avais entendu parler de ce bel établissement. Et là, c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai été nommée ici. J'ai pris mes fonctions il y a une quinzaine de jours et j'avoue que pour le moment, tout est parfait. Donc j'espère que ça va continuer comme ça.
À noter qu'un an après sa mise en place dans la Marne, le Conseil départemental des jeunes poursuit sa dynamique lors de cette rentrée scolaire avec l'élection à la présidence et de vice-président le samedi 9 septembre à 14h à l'hôtel de département de Châlons-Champagne. Cette année scolaire sera l'occasion pour ces jeunes élus d'approfondir leur action et leur investissement au niveau départemental.
Un reportage de Christopher Fausten pour RCF Cœur de Champagne. Le monde rural est en colère et les enseignants ardennais étaient sous les fenêtres du recteur à Reims ce lundi pour protester contre les fermetures de classes. Le collège de Fumet et les collèges Rimbaud et Jean Massé de Charleville-Mézières étaient en grève ce lundi à Carignan. Une opération collège mort était organisée. Demain, c'est le collège Nassau de Sedan qui sera à son tour en grève. Nommé mercredi dernier en Conseil des ministres, le nouveau recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, a fait sa rentrée ce lundi où il a notamment visité en matinée, le lycée Stéphane Hessel d'Épernay avant de se rendre au pôle scolaire de Tagnon dans les Ardennes cet après-midi. Il avait d'ailleurs commencé sa découverte de l'académie en se rendant déjà dans les Ardennes du côté de Grandpré vendredi dernier. Malgré les protestations, les équipes pédagogiques sont sur le pont pour cette rentrée scolaire 2023-2024. Vincent Stanek.
L'Académie de Reims est prête à affronter cette rentrée. J'ai pu évidemment prendre connaissance des différents dossiers, travailler avec mes équipes et je crois que nous abordons une rentrée sereine et bien préparée. Nous allons travailler sur quatre axes très importants. Le premier, c'est évidemment l'apprentissage des élèves pour renforcer les apprentissages. Le deuxième, c'est construire une école qui respecte les droits et les devoirs et notamment le principe de laïcité. Le troisième axe, ça va être un axe important sur le bien-être des élèves et la lutte contre le harcèlement qui va être une grande cause nationale. Et enfin, nous souhaitons construire une administration plus proche des établissements scolaires, une administration innovante, une administration qui soit vraiment en appui des élèves et des équipes pour construire des projets innovants.
D'abord professeur de philosophie, puis successivement inspecteur d'académie, DAZEN, IGESR et enfin conseiller en charge des affaires pédagogiques au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, celui qui a 50 ans et désormais recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, veut faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une de ses priorités. Absolue.
Alors c'est un sujet qui est une grande cause nationale, c'est un sujet qui je crois doit vraiment nous mettre au contact des parents d'élèves. Il faut que l'Éducation nationale, les parents d'élèves, nous agissions de concert sur ce sujet qui est un sujet majeur. Nous savons que le harcèlement peut tuer. Donc je vais très rapidement réunir les équipes du rectorat, des chefs d'établissement, je vais rencontrer les représentants des parents d'élèves, il faut que nous nous mobilisions sur ce sujet et que nous le fassions très vite. Pour les parents d'élèves, je vais les recevoir dans les prochains jours. Nous avons un plan qui a commencé à être mis en œuvre l'an dernier, que nous allons poursuivre, qui s'appelle le programme phare. Et le but, c'est que tous les personnels soient formés à la fin de l'année.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes dans la continuité de son prédécesseur Olivier Branduit, appelé aux fonctions de directeur adjoint au cabinet de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vincent Stanek entend aussi collaborer avec d'autres institutions pour avancer sur le sujet. La mission du patrimoine portée par l'animateur Stéphane Bern a révélé cet après-midi les projets patrimoniaux qui seront soutenus cette année. En 2023, 100 projets sont retenus donc par département, comme il est de coutume. Dans la Marne, c'est la halle de Cheminon qui est lauréat de la mission. Dans les Ardennes, c'est le projet de la maison forte de Mogues, un blocos camouflé en maison d'habitation situé entre Carignan, dans les Ardennes françaises, et Florentville, en Belgique, qui est retenu. En Haute-Marne, les jardins du château de Donjeux sont les chanceux, tandis que dans l'Aube, c'est le châtelet d'entrée du château de Dampierre qui sera défendu. Sport, football, Ligue 1, le stade de Reims n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, 2 buts partout sur la pelouse du FC Metz lors de la 4e journée de championnat hier après-midi. Les Rémois sont 4e du classement. Samedi, la 5e journée de Ligue 2 n'a pas réussi aux Troyens, tenus en échec 2-2 également sur la pelouse par Quevilly 3. Et 10e. On va y arriver, c'est la fin de journal, on bégaye un petit peu, on reprend nos repères progressivement. 18h39 sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et on prend la direction de la foire de Chalon. On vous le disait, c'est l'événement de la rentrée, puisque cette deuxième foire agricole de France est le rendez-vous de la rentrée politique également. Christopher Fausten, vous êtes sur place.
Après la visite du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, vendredi dernier, c'est au tour du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, de partir à la rencontre des visiteurs et exposants ce lundi matin. Il est revenu notamment sur ce qui préoccupe les auditeurs aujourd'hui, l'inflation, le mot d'ordre, baisser les prix pour les consommateurs, Bruno Le Maire.
Dans cette période de rentrée, la première préoccupation des Françaises et des Français, c'est les prix.
prix des fournitures scolaires et prix des produits alimentaires. Donc j'ai pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'il était temps de taper du poing sur la table, de faire en sorte que les choses s'accélèrent, de casser la spirale inflationniste. Nous allons avancer les négociations commerciales entre distributeurs et industriels. Nous allons demander aux distributeurs de répercuter immédiatement les baisses des prix des industriels. Quand un industriel baisse le prix de son litre d'huile d'olive ou de son pack de yaourt, il faut que le lendemain, ça se retrouve dans les prix des rayons. Et nous allons multiplier par deux, je remercie les distributeurs et les industriels qui vont faire cet effort, multiplier par deux le nombre de références sur lesquelles immédiatement les prix baisseront ou les prix ne bougeront plus pour que le ticket à la caisse soit le plus bas possible pour les consommateurs. Évidemment, il y a une inquiétude. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, me l'a dit. Tous mes amis du monde agricole me l'ont dit. Ils veulent que ça n'ait aucune répercussion sur les marges des producteurs agricoles et sur les revenus des producteurs agricoles. C'est l'engagement que j'ai pris. Nous tiendrons cet engagement. Il ne faut pas que les renégociations commerciales se fassent sur le dos du revenu des agriculteurs. Le revenu des agriculteurs sera protégé. Les négociations vont s'engager entre les 75 plus grands industriels, c'est les grandes multinationales industrielles, et les distributeurs. Ça ne doit pas concerner les agriculteurs eux-mêmes. Et nous veillerons à ce que tous les dispositifs de la loi EGalim, qui vise à protéger le revenu des agriculteurs, de nos producteurs agricoles, soient strictement respectés et que le revenu des agriculteurs soit protégé.
L'objectif pour le ministre de l'Économie est, je cite, « casser la spirale sur l'inflation, notamment des prix alimentaires », Bruno Le Maire.
Alors, depuis trois mois, on a un léger ralentissement. Les prix au mois de mars avaient augmenté de 16% par rapport à mars 2022. Aujourd'hui, c'est 11%, c'est 5 points de moins, mais c'est toujours 11% de trop. Et pour tous les ménages qui aujourd'hui font leurs courses, vont trouver les produits alimentaires les moins chers possibles, ça reste trop cher. Et j'ai parfaitement conscience que vous avez des millions de nos compatriotes qui se serrent la ceinture, qui renoncent à certains produits, parfois des produits essentiels, parce que les prix sont trop chers. Donc il fallait marquer un coup d'arrêt, mettre fin définitivement à cette spirale inflationniste, c'est fait. Vous allez avoir le double de références dans les rayons sur lesquels les prix seront bloqués ou les prix baisseront. Ça doit se voir tout de suite. Et nous vérifierons que les engagements pris par les distributeurs et les industriels sont strictement respectés. Quand un industriel fait un effort et dit « voilà, mon pack de yaourt sera moins cher, mon litre d'huile d'olive sera moins cher, mon paquet de pâtes sera moins cher », il faut que ça se retrouve le lendemain dans le prix des rayons, que les distributeurs ne jouent pas à retarder d'un mois ou deux mois la baisse des prix. Enfin, nous allons rouvrir les négociations commerciales. Immédiatement, elles devaient s'ouvrir au mois de mars 2024. Là, je souhaite qu'elles se rouvrent immédiatement entre les 75 plus grands industriels agroalimentaires et les distributeurs pour qu'elles puissent se conclure vers la mi-octobre et que par conséquent, d'ici la fin de l'année, début de l'année 2024, ces négociations puissent être conclues et donc qu'on accélère la baisse des prix en rayon. C'est ma préoccupation numéro un, je le redis, je suis là pour protéger, défendre le pouvoir d'achat des consommateurs et on doit avoir les résultats de nos décisions dans les jours qui viennent.
En parallèle, le gouvernement met 15 millions d'euros d'aide supplémentaire sur la table pour les Restos du Cœur. L'association est confrontée à une hausse très importante de personnes qui demandent de l'aide. Elle fait aussi face à une augmentation de ses coûts de fonctionnement à cause de l'inflation. Pour Bruno Le Maire, le gouvernement ne laissera pas tomber les Restos du Cœur.
Que la solidarité ne soit pas simplement un mot, mais que ce soit des décisions. Les Restos du Cœur font un travail exceptionnel au service des plus démunis. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, je me suis là aussi battu pour qu'on maintienne l'aide européenne aux associations caritatives, notamment les Restos du Cœur. C'est un combat que je livre depuis des années. Aujourd'hui, le président des Restos du Cœur nous dit qu'il a du mal à boucler son budget parce que l'augmentation des prix fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont au Restos du Cœur. J'ai pu m'en rendre compte il y a quelques mois quand je me suis rendu à Paris dans un centre des Restos du Cœur. Il y a déjà 15 millions d'euros qui ont été débloqués par le gouvernement. Je recevrai dans les jours qui viennent le président des Restos du Cœur pour faire le point avec lui, pour voir s'il y a des demandes supplémentaires qui doivent être remplies. Nous ne laisserons pas tomber les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur auront les moyens de fonctionner. Les Restos du Cœur auront les moyens de faire le travail exceptionnel qu'ils font au service des plus démunis.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, au micro de RCF ce matin depuis la foire de Châlons.
Et d'ailleurs, depuis, quelques bonnes nouvelles sont tombées pour les Restos du Cœur, puisqu'après leur appel à l'aide qui a été lancé, la famille de Bérarin Arnaud, propriétaire du groupe de luxe LVMH, annonce faire un don d'une aide de 10 millions d'euros à l'association. C'est presque un tiers des besoins des Restos du Cœur, donc c'est quand même pas rien. 18h45 sur RCF.
Le 18-19 sur RCF.
La rentrée, évidemment, sur RCF, c'est la rentrée de nos programmes à nous sur RCF France-Ardennes, sur RCF Cœur de Champagne. Dans quelques instants, Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne, sera notre invité pour évoquer les programmes de la rentrée sur RCF Cœur de Champagne. À nos côtés, c'est notre rédacteur en chef, mais aussi notre directeur ici à RCF France-Ardennes, Jean-Pierre Benoît, qui est toujours là. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Alexis.
La rentrée, c'est à la fois de la nouveauté, mais aussi une certaine stabilité. Avant même de parler des programmes, j'ai envie de vous demander quelle a été la philosophie lors de la construction de cette grille, Jean-Pierre.
Mais c'est vrai, Alexis, vous le dites justement, à chaque rentrée, le programme fait place à de nouvelles émissions, mais il conserve des rendez-vous habituels. C'est un équilibre. Nos auditeurs qui sont fidèles à des émissions qu'ils apprécient, réalisées par des producteurs qui y mettent toute leur passion, souhaitent retrouver ces émissions, mais aussi retrouver des créations et de l'innovation.
Bon, on va rester pour nos auditeurs les plus fidèles sur les programmes qui restent. Jean-Pierre, quels sont ceux qui s'inscrivent dans la durée, j'allais dire ? Quelques-uns.
Alors, ceux qui s'inscrivent dans la durée, c'est évidemment les méditations, c'est le 18-19, évidemment, magazine régional. Ce sont les invités du matin, le 3QA du matin. Ce sont des émissions diocésaines avec, en particulier, la collaboration de l'équipe de communication du diocèse. C'est Paroles d'évêques. C'est aussi toutes les émissions avec nos producteurs, nos chroniqueurs habituels. Malheureusement, on ne peut pas les citer tous, Alexis.
Donc ça, on l'a compris, c'est pour le côté stabilité de la grille. Mais on l'a dit, Jean-Pierre, il faut un équilibre. Et dans un équilibre, il y a aussi des nouveautés. Et là, on peut peut-être présenter quelques émissions qui sont en lien avec l'actualité et ce qui est en train de s'inscrire, de se passer sur le territoire en ce moment.
Alors c'est vrai que je suis un peu ennuyé parce qu'on a l'impression de faire ma propre pub et de me vanter.
Ne soyez pas ennuyé, mais c'est ce que vous faites, Jean-Pierre.
Mais oui, mais c'est ce que je fais, effectivement.
Mais ça permet aussi à nos auditeurs de pouvoir prendre rendez-vous avec certains moments importants de la grille de programme.
C'est une émission nouvelle qui a lieu le midi. Votre mère nous parle. C'est un rendez-vous quotidien. Ça, c'est très important.
Quand vous dites votre maire, Jean-Pierre, je vous interromps, mais c'est le maire de qui, finalement?
C'est le maire
de Charleville-Mézières ou c'est le maire d'une petite commune rurale?
De toutes les communes. D'ailleurs, il va y avoir 5 émissions par semaine, évidemment, multipliées par 40. Ça veut dire qu'il y aura, dans l'année, 200 maires, à la fois des Ardennes et de l'arrondissement de Reims, qui viendront nous parler de leur commune et de leur parcours.
Donc ça, c'est une nouveauté, c'est une quotidienne sur RCF France-Ardennes, c'est tous les midis, Jean-Pierre, le rendez-vous du lundi au vendredi.
Et puis, à 18h20, nous entendrons des extraits de ces émissions, en sachant que lorsqu'il y a une démarche diocésaine dans un espace missionnaire, on profitera de l'occasion pour que cette semaine-là, on donne la parole à des maires de cet espace-là.
Alors, d'autres émissions nouvelles quand même sur la grille de programme de RCF France.
Alors, nouvelles du monde, alors j'ai envie cette fois de vous interroger, Alexis, parce que c'est vous qui conduisez cette émission.
Nouvelles du monde, pour la présenter rapidement à nos auditeurs, ça sera des rencontres avec globalement plutôt des étudiants ou des jeunes actifs qui sont quelque part sur le globe ou qui sont en train de se préparer à voyager aussi avec leurs proches, etc. pour savoir comment on s'adapte à une culture, comment on s'adapte à un métier, à un autre pays, etc. Donc on va avoir là des rencontres avec une jeune fille qui part pour un an faire jeune fille au pair aux États-Unis, mais on aura aussi des gens qui seront avec nous depuis le Liban, qui sont étudiants actuellement à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, qui partent en échange. On aura également des gens qui seront avec nous depuis le Canada. On reviendra avec une jeune fille sur une année complète passée du côté du Pérou. Donc vous le voyez, Jean-Pierre, ça sera vraiment des rencontres avec d'autres cultures. Ça sera presque, j'allais dire, un choc des cultures ici. Ça sera voyager à travers son canapé avec cette émission.
Une ouverture internationale avec des jeunes d'ici. Parlons d'Europe. Là aussi, c'est une ouverture. Vous savez qu'il y a des élections européennes l'an prochain. On a demandé à Jean-Marie Beaupuy d'analyser les enjeux européens dans un monde en mutation. Et puis, en direct de l'histoire, avec Michel Royer, regard d'historien à travers le temps. Et puis, Sportiplex Le Mag. Là aussi, c'est à vous, Alexis, parce que c'est vous qui prenez... j'allais dire sous votre houlette ce rendez-vous.
Effectivement, avec je l'espère les jeunes de l'équipe du Sportiplex qui sont en train d'organiser leur rentrée que l'on retrouvera alors cette fois pas tous les samedis soirs cette saison, mais que l'on espère retrouver de temps en temps dans l'année lorsqu'il y aura des directs assez exceptionnels. Eh bien Sportiplex Le Mag, c'est ce magazine qui existait pendant un temps sur la grille de programme de RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes sous le nom Sportimag. C'est un focus, un zoom avec un club, avec un sportif local, avec aussi, ça peut être un élu au sport qui vient présenter comment on organise les choses, ou ça peut être, comme on le faisait avec Claude Ruiz tout à l'heure, un regard d'historien, de géographe sur un événement en particulier. Et tout ça s'inscrit évidemment aussi dans la logique des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui seront organisés, donc vous l'avez compris, comme son nom l'indique, en France cet été, Jean-Pierre.
Je voudrais préciser, dans cette grille de programme, il y a bien sûr tous les événements que nous suivrons en direct.
J'allais dire, Jean-Pierre, une grille de programme, mais aussi des rendez-vous à noter dès maintenant dans l'agenda. grande offre.
En particulier, demain, après-demain, à la foire de Chalon, entre 18h10 et 19h en direct, dans le magazine régional. Et puis surtout, dans la vie diocésaine, samedi à 17h30, la retransmission en direct sur RCF Reims-Ardennes de l'ordination épiscopale de Mgr Étienne Véteux.
Alors, ce rendez-vous, c'est à 17h30 pour les diocésains à la cathédrale, mais sur RCF Reims-Ardennes, on prend l'antenne, je crois, dès 17h, Jean-Pierre.
Oui, dès 17h, il y aura même des programmes locaux à partir de 14h de façon exceptionnelle. Et puis, on aura dans quelques jours le Festival mondial des théâtres de marionnettes. On aura également la Saint-Remis, on aura des rencontres diocésaines. Ben, c'est assez chargé.
J'allais dire, on sort des murs, on va se montrer. C'est un petit peu, on passe de la pastorale de la cloche à la pastorale de la sonnette. On suit la démarche diocésaine quelque part.
Et oui, et ça rappelle Mgr Feillé qui disait souvent cette expression et que nous aurons le plaisir de retrouver lors de la Saint-Remis que nous célébrerons début octobre.
Je vois Jean-Pierre, on parlait beaucoup dans cette émission rugby avec la Coupe du Monde qui ouvre ce vendredi 8 septembre. On vous fait des passes décisives, vous transformez l'essai. 18h51 sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
RCF qui a repris ses programmes, j'allais dire, de rentrée ce matin, sa nouvelle grille de programmes, ses nouvelles voix, ses nouvelles émissions. Un zoom sur les nouveautés du côté de RCF Cœur de Champagne, cette fois avec son président Gabriel Francard qui est avec Christopher Fausten.
Bonjour Gabriel Francard.
Bonjour Christopher.
Président de RCF Cœur de Champagne, merci d'être notre invité aujourd'hui sur RCF depuis le Capitole en Champagne pour faire vivre également cette 77e foire qui va durer jusqu'au 11 septembre. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, hein. On est le lundi 4 septembre et c'est la journée de rentrée. Rentrée scolaire mais aussi la rentrée radiophonique de RCF, un rendez-vous très attendu par nos auditeurs et par toute l'équipe de RCF.
Bien sûr qu'on pense à la rentrée scolaire aujourd'hui et je pense à nos auditeurs. Leurs enfants, leurs petits-enfants qui aujourd'hui reprennent les chemins de l'école, du collège, du lycée. C'est aussi un grand moment pour les exposants de la foire parce que pendant 10 jours, ils vont vivre aussi un moment intense et pour certains, c'est déterminant par rapport à leur activité professionnelle pendant un an. Et puis nous, RCF, eh bien, nous reprenons comme chaque année au mois de septembre une nouvelle saison qui va être encore riche d'émissions, de nouvelles voix, de nouveaux sons. Notre souci permanent d'adapter notre programme aux attentes de nos auditeurs, notre souci permanent d'être aussi au service donc à la fois de l'Église, mais aussi à la fois des territoires que nous couvrons, le diocèse de Chalon, le nord de la Haute-Marne, le nord de l'Aube également. Et donc c'est pour ça que cette rentrée de septembre, elle est toujours un moment intense pour nous, puisqu'il y a une nouvelle grille qui va arriver. On va d'ailleurs bientôt l'envoyer à nos auditeurs, ceux qui le demanderont, et ceux avec qui on est en contact permanent. Parmi les nouveaux programmes, vous allez retrouver des valeurs sûres. Alors bien sûr, je rappelle que 20 heures de programme sont produits au niveau national par l'Union RCF, et il y a 4 heures qui sont produits chaque jour par la radio RCF Cœur de Champagne, associée avec la Reims-Ardennes, associée avec Nancy, associée avec des radios territoriales. Donc voilà, c'est un programme de radio associative, comme toujours, non commercial. Et ça, on sait que nos auditeurs sont attachés à ce côté associatif. Ceci dit, quand je dis ça, je glisse un petit clin d'œil en disant que si nous, on n'a pas de publicité pour vivre, c'est bien parce qu'on a à la fois le diocèse qui nous aide et à la fois aussi les auditeurs. La force de notre radio, je le rappelle, la force de notre radio, c'est une radio associative à laquelle les auditeurs sont très attachés puisque nous recevons plus d'un tiers de notre budget, de leur générosité. Et j'espère que ça va continuer parce que les coûts augmentent en permanence. Hein. J'en profite, hein. Je dérive un peu du programme. J'en profite pour dire quand même que l'électricité a beaucoup augmenté. Nous avons 5 émetteurs qui consomment de l'électricité et notre facture de consommation énergétique est devenue assez significative. Et parallèlement, on essaye aussi, et ça c'est aussi l'activité de la radio pendant un an, c'est de donner des émetteurs qui fonctionnent mieux, qui fonctionnent de manière permanente, quel que soit l'orage. Et donc, nous avons beaucoup investi sur Épernay. Nous allons investir pas mal sur l'Arzicourt pour couvrir tout le sud-est de la Marne et le nord de la Haute-Marne. Et puis, nous continuons à entretenir tout ça. Donc voilà l'activité d'un président, d'un bureau. Et parallèlement, il y a bien sûr nos salariés qui, eux, travaillent au contenu.
Alors, on parlait des émetteurs à rénover pour faire vivre cette nouvelle grille de programme, vous le disiez, 4 heures en moyenne par jour, avec la matinale, le midi et le soir, avec des nouveaux rendez-vous, 4 nouveaux rendez-vous cette année.
Alors, un rendez-vous qui va surprendre tout le monde, et ça c'est parce que nous avons une proximité avec Mgr Touvet, notre évêque, avec Laure de la Judy, qui est responsable, elle, de la programmation au sein du bureau, que nous avons construit une nouvelle émission proposée par Mgr Touvet, qui s'appelle le KT de A à Z. Alors vous avez trouvé sur la grille que le KT, ça s'écrit KT, KT, deux lettres, de A à Z. Donc c'est le clin d'œil que Mgr Touvet a voulu faire un peu aux auditeurs. Pourquoi donc on ne va pas faire réviser le catéchisme des enfants, mais c'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande d'explication des fondamentaux, je dirais, de la vie ecclésiale, de la vie religieuse, de la vie de la religion catholique. Donc ça, c'est nouveau. Et ce qui est important, c'est qu'aussi cette émission-là, elle va être utilisable quel que soit le territoire sur lequel l'auditeur va se retrouver. Parce que vous savez très bien qu'on travaille aussi avec nos amis de RCF Reims-Ardennes, diocèse de Reims et département des Ardennes, avec le nord du diocèse de Langres. On sait qu'on est écouté au-delà de notre territoire. Et donc, ces paroles d'évêques, elles sont non pas liées à la vie des diocèses, parce que Mgr Touvet a déjà son émission qui s'appelle Episcorama. Là, on va se retrouver avec les bases des points de repère de la vie catholique. Et ça va être intéressant. Autre émission différente, mais toujours parce qu'on a voulu que les émissions religieuses reviennent à un minimum de 25% de notre temps d'antenne. Hein, sur les 4 ans, il faut qu'on en ait au minimum, donc minimum une heure chaque semaine, tournée sur la religion. Ça va être le Monastère Invisible qui est porté par Pascal Pupinck, quelqu'un qui est remarquable dans toute sa culture et sur sa pratique religieuse. Ensuite, nous aurons également une autre émission nouvelle qui, là, va faire un clin d'œil du côté des jeunes, parce que je trouvais qu'on était un peu en déficit de lien avec la jeunesse. Et là, ça va être mené avec les jeunes de l'école Notre-Dame-Perrier de Châlons. Et j'en profite pour dire que notre radio est ouverte à toutes les écoles, quelles que soient catholiques ou ne soient pas catholiques, à toutes les catéchèses, pour qu'on soit davantage le reflet aussi de la vie de la population jeune. Et enfin, dernière émission, parce qu'on va parler 4, hein, une autre émission qui va encore être dans la droite ligne de ce que l'on fait dans le secteur associatif avec Jérôme Gorgeau. Et on va à la fois reparler aussi de tous ceux qui ont des passions, de tous ceux qui vivent à la fois dans le domaine artistique, dans le domaine littéraire, dans le domaine, je dirais même, associatif, au sens intégration de la vie sociale et animation de la vie d'un groupe, d'un club, d'une association.
4 nouveaux rendez-vous qui vont donc enrichir cette grille de programmes de RCF Cœur de Champagne pour cette saison 2023-2024, à vivre sur les ondes tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux, le site internet avec les plateformes de podcast que vous pouvez consulter gratuitement et sans limite. Merci beaucoup Gabriel Francard d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Très bonne rentrée et à très vite sur RCF.
Merci Christopher. Donc on y reviendra, hein, parce qu'effectivement, tu viens d'évoquer le numérique. Et c'est quand même une évolution forte actuellement. Les gens écoutent sur différents supports les émissions de radio aux heures qui leur conviennent. Donc le podcast, c'est une façon de réécouter quand on est disponible sur le support qui convient. Et donc on n'est plus trop lié non plus aux émetteurs. On peut le réécouter sur son ordinateur, sur son téléphone portable. Et j'insiste beaucoup, puisqu'on parle du DAB+, cette radio numérique terrestre, qui nous amène à être régionalisés, puisque c'était le choix de RCF de dire les émissions seront régionales, donc on travaillait avec Reims, et nous, à Châlons, nous avons vocation aussi à s'occuper davantage de l'Aube, parce qu'il n'y a plus le RCF présent dans l'Aube, mais on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs dans l'Aube qui vont retrouver, et ce matin, j'étais encore en voiture dans l'Aube, j'ai traversé l'Aube, et on entend très bien RCF sur le nouveau réseau de DAB+, donc si vous avez un autoradio ou un poste radio récent, vous allez sur Source, et vous ne mettez pas FM, vous mettez DAB+. Et vous écouterez RCF. Donc actuellement, c'est le programme de Reims, mais progressivement, on va mixer les programmes pour avoir un programme Champagne-Ardennes.
Merci Gabriel Francard.
Merci Christopher.
Gabriel Francard et Christopher Fausten, vous avez reconnu leur voix, ils ont aussi cité leur nom, donc c'était plus simple. Depuis la foire de Châlons, vous pouvez retrouver la liste des émissions locales sur le site rcf.fr ainsi que sur les différentes plateformes de podcast. Jean-Pierre, 18h59, c'est la fin de ce premier magazine de l'année. Évidemment, on se retrouve du lundi au vendredi, 18h10 pour le grand rendez-vous.
Et oui, et j'ai trouvé que pour une rentrée, vous étiez particulièrement affûté, Alexis.
On essaye d'être en jambes, Jean-Pierre, évidemment, il faut les cannes, comme on dit dans le monde du rugby. C'était un petit peu notre fil conducteur aujourd'hui, ça le sera tout au long de cette semaine. Et des prochaines semaines, puisque la Coupe du Monde de rugby, vous l'avez compris, elle s'étale sur presque 2 mois. Jean-Pierre, on se retrouvera demain, notamment le matin sur RCF France-Ardennes à 7h, avec une édition spéciale rentrée scolaire. Évidemment, on rencontre avec des élus, mais aussi avec les responsables principaux des établissements supérieurs, j'allais dire.
Absolument, Christelle Cordel pour Sciences Po.
Mathias Fischera également.
Oui, Mathias Fischera. Et puis également Olivier Cuissard, le directeur de l'ICP Campus de Reims.
Merci Jean-Pierre Benoît, merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité, merci d'être fidèle au poste évidemment. On revient demain à 18h10 pour le magazine régional. Très bonne soirée en compagnie de RCF. Tout de suite, ça n'a pas changé, c'est l'information nationale qui prend le relais.